Bonjour. D'abord, je voudrais remercier les collègues de Philosophie des Nantes, notamment un grand géant, les amis Pascal Taranto, et dire que parler ici, c'est un motif d'honneur parce qu'on a eu des visites des profs de ce département, notamment Michel Malherbe, et après Vienne, à Curitiba, il y a quelques temps déjà, mais c'était très, très instigant. Enfin, c'était une opportunité d'échange intellectuel et aussi personnel très, très rare. D'abord, je m'excuse par mon français. Et si je commets quelques fautes, enfin, c'est pas ma langue. Ce que je vais vous dire concerne à l'estatut de l'esthétique chez Kant. Et je commence par une petite considération sur l'art contemporain. On sait que l'art contemporain s'est engagé, il y a longtemps, à renouveler les liens unissant l'art et la vie. D'abord, ce programme s'inspirant de la phénoménologie, notamment de Merleau-Ponty, a essayé de remplacer les comportements contemplatifs du public en face des Louvres par l'idée de l'esthétique comme expérience privilégiée pour relativiser l'opposition entre sujet et objet, entre contemplation et activité. Des artistes néoconcrétistes tels que Elio Oitsika et Lija Clark sont des exemples de cette tendance très expressive au Brésil entre les années 50 et 60 du siècle dernier. Plus récemment, le rétablissement du lien entre l'art et la vie revendique l'esthétique comme occasion de jouissance, comme champ d'expérimentation et connaissance de soi et de l'autre, s'opposant ainsi aux adeptes du formalisme dans l'art. Par exemple, Shapiro, Greenberg aux États-Unis, et d'une façon générale, s'opposant au parti moderne en esthétique. Je pense que récemment, cet essai de rétablir les liens entre l'art et la vie est aussi une des revendications du postmodernisme. Enfin, ce n'est pas mon intérêt ici de prendre parti dans cette polémique. Si je la rappelle, ce n'est que comme prétexte et point de départ pour revenir au XVIIIe siècle, dans les cours duquel l'esthétique est devenue une discipline philosophique autonome par rapport au domaine de la morale et des sciences. Les lectures canoniques de ces processus, Cassirer par exemple, y saluent la découverte du caractère spécifique du sensible et de sa positivité. En fait, le sensible cesse d'être considéré comme le synonyme de la parole confuse, de la représentation obscure et d'obstacles potentiels à la vérité. Il devient condition des possibilités de l'expérience, de la connaissance, méritant de figurer à côté de la logique comme élément de la doctrine du savoir. Au-delà de cette citoyenneté épistémologique, le sensible devient, au cours du XVIIIe siècle, lieu des profusions de l'affectivité, du cœur et de la jouissance de l'homme, comme illustrent Rousseau, Watteau, Fragonard, parmi d'autres. Désignant une vérité irréductible à la raison, le sensible convoque la pensée de lumière à dessiner la cartographie d'un territoire nouveau qui n'est ni connaissance, ni loi morale, et qui pourtant engage l'homme à exploiter librement son humanité. La critique du jugement esthétique de Kant, c'est-à-dire la première partie de la troisième critique, peut, à mon avis, être comprise comme la réponse kantienne aux questions soulevé par cette rupture concernant le sensible qui singularise la pensée du XVIIIe siècle par rapport au grand rationalisme du siècle précédent. Et pourtant, on serait dessous si l'on attendait des Kant une quelconque ouverture de la pensée au territoire de la vie, comme proposé par les programmes des esthéticiens contemporains. C'est ça que je voudrais soutenir ici aujourd'hui. Pas dire que Kant est ennemi de la vie, mais que son esthétique ne remplisse pas cette liaison récemment recherchée entre la vie et l'esthétique et l'art. Au contraire, il me semble que la position critique à ces propos conduit à une véritable antinomie entre l'esthétique et le sensible. En fait, si Kant affirme que l'esthétique consiste dans la seule détermination a priori du sentiment des plaisirs et des plaisirs, c'est parce que dans cette détermination, l'objet de la représentation n'est qu'un prétexte pour que le sujet se replie sur soi-même sans aucun égard à une extériorité qui ne soit elle-même subjective. Les paragraphes de l'analytique du beau insistent sur la thèse selon laquelle la subjectivité mise en jeu par les jugements des goûts se désintéresse de l'élément matériel contenu dans la sensibilité. D'autre part, en accomplissant cette orientation, le génie, tel comme le définit Kant, est celui qui produit l'idée esthétique, certes à partir des rapports originels unissant les images sensibles, mais toujours tel qu'il donne beaucoup à penser. En fait, déjà dans l'introduction de la troisième critique, Kant nous apprend que ce qu'il y a d'esthétique dans la représentation de l'objet réside dans, je cite, « ce qui est seulement subjectif », c'est-à-dire dans la relation de la représentation au sujet et non pas à l'objet. Ainsi, la modalité de la relation authentiquement subjective de la représentation se détache de toute signification potentielle propre au sensible. Afin d'élucider cette coupure, il faut examiner quelques prémices de la découverte de l'esthétique par Kant. On verra que ce paradoxe est pourtant une conséquence rigoureuse de la démarche kantienne vers la découverte de l'esthétique. Son examen nous permettra d'évaluer le sens de la nouveauté kantienne et de saisir sa singularité dans le cadre de la naissance de l'esthétique moderne. Pour reprendre la problématique dont est issue la définition de l'esthétique chez Kant, il faut revenir à la critique de la raison pure. Et curieusement, non à l'esthétique, mais à la logique transcendantale, au rapport des solidarités qui unissent ces deux parties, l'analytique et la dialectique. Une solidarité dont la complexité est pourtant négligé par Kant lui-même dans son introduction à la logique transcendantale, dont la dernière section anticipe deux thèses. Premier, thèse 1, l'usage de la connaissance pure de l'entendement est conditionné par la réceptivité des objets dans la sensibilité. Deux, il est très tentant de faire un usage des connaissances pures de l'entendement au-delà des limites de l'expérience, en employant le canon de l'usage empirique de l'entendement comme un organon d'usage général et limité. La division interne de la logique transcendantale, c'est-à-dire dans une analytique et une dialectique, proposée par ces textes que je viens de lire, partage la logique en une logique de la vérité et en une critique de l'apparence dialectique. C'est-à-dire, je cite, une critique de l'entendement et de la raison qui envisage de mettre à découvert l'apparence fausse où conduisent des ambitions sans fondement. Le problème de ce texte est sa manifeste unilatéralité. D'abord, Kant n'y reconnaît aucune distinction entre entendement et raison. Il ne singularise pas la raison dans ses fonctions de systématisation caractéristiques qui seront présentées dans l'appendice à la dialectique transcendantale, à la fin de la logique transcendantale. Au contraire, les deux facultés sont comprises dans ce texte introductif de la dialectique selon un usage hyperphysique commun. Quand nous savons que Kant lui-même prend soin, dans plusieurs textes, de distinguer deux modalités diverses d'apparence, l'apparence logique et l'apparence transcendantale, concernant respectivement à l'entendement et à la raison. En conséquence, dans le texte qui est notre point de départ, il n'y a aucune mention de la métaphysique comprise comme disposition naturelle de la raison humaine à chercher pour soi un objet inconditionné. À s'en tenir à ce texte, le lecteur ne saurait pas deviner l'originalité représentée par la critique, ni les raisons qui, selon la lettre de Kant à Garve du 21 septembre 1798, sont à son origine. Je pense aux antinomies de la raison pure. Il n'y a pas de référence aux résultats positifs de la critique de la métaphysique spéciale, une critique qui, au contraire de l'examen de l'ontologie dogmatique, confère aux disciplines rationnelles une survie indispensable à l'intérieur de l'épistémologie critique. Et là, je suis le texte de Gérard Lebrun, Kant et la fin de la métaphysique. Comme on sait, à travers l'appendice à la dialectique transcendantale, l'interdiction de la connaissance théorique de l'âme, des dieux et du monde est complétée par la thèse selon laquelle le suprasensible correspond à une référence indispensable à la raison afin de penser, c'est toujours penser, aux conditions générales de l'expérience. Afin de poursuivre notre reconstruction, passons donc directement à l'appendice de la dialectique transcendantale, où Kant établit que la raison, essayant d'offrir une unité systématique à l'ensemble des connaissances particulières de l'entendement, finit par matérialiser cette unité dans les figures de l'inconditionné, de façon qu'une exigence subjective de totalisation en vient à être comprise comme principe objectif de la totalité. C'est-à-dire que notre raison hypostasie, on peut dire ça en français, hypostasie, cette processus, cette tendance de totalisation dans un être existant en soi et par soi-même. Ce processus est cependant, et ce processus vient éclairé par la critique, mais de toute façon, ce qui est important, c'est qu'il y a un côté positif là, parce que ce processus est cependant, Kant le dit, une condition sine qua non de la compréhension de l'expérience comme système des lois empiriques. C'est-à-dire que l'illusion a une efficacité transcendantale, indispensable à la connaissance empirique. Si, comme dit Kant dans l'appendice, l'apparence engendrée par la raison, malgré la désactivation de ses implications dogmatiques par la critique, reste active là où il y a production des connaissances, si donc l'illusion rationnelle, elle aussi, représente, à côté de la spontanéité de l'entendement, une contribution indispensable afin de connaître la nature comme système de loi empirique, et dans cette mesure-là, représente une condition transcendantale de la connaissance de l'expérience, il faut en conclure que le rapport que la critique établit avec la métaphysique spéciale n'est pas une rupture. Kant n'est pas Nietzsche. valoriser la solidarité épistémologique entre l'analytique et la dialectique transcendantale de la première critique, qui a été niée par notre texte de départ, l'introduction à la dialectique. Cette valorisation nous empêche d'ignorer le lien profond unissant la question de la finalité à la métaphysique spéciale. C'est l'usage régulateur des idées rationnelles pour la connaissance d'expérience qui répond par la finalité de la nature, présupposition sans laquelle il n'y aurait pas d'usage empirique possible de l'entendement. Or, le problème, c'est que Kant, pourtant, n'apparaît-nous cette solution, qui, à mon avis, est cohérente à l'intérieur de la première critique, il n'arrête-nous cette solution que jusqu'à 1790. Il suffit de lire la première introduction à la critique de la faculté de juger, ce texte qui a resté non publié dans la vie de Kant, à cause de sa taille, enfin. Il suffit de lire ce texte pour se rendre compte de la nouveauté de sa position à propos de la finalité telle qu'établie dans la critique de la raison pure. Dans la section 5 de ce texte, de la première introduction, intitulée « De la faculté des jugés réfléchissantes », Kant affirme, je cite, « Le principe de la réflexion sur les objets donnés de la nature est le suivant. Pour toutes les choses de la nature, on peut trouver des concepts empiriques déterminés, ce qui veut dire tout aussi bien que dans ces produits, on peut toujours présupposer une forme qui est possible. » La suite de texte désigne ce principe comme transcendantal et l'attribue à la faculté de juger, qui à présent répond par la reconduction de l'hétérogénéité des formes empiriques à des principes communs, sans quoi il n'y aurait pas de comparaison conceptuelle ni consolidation des lois particulières dans un tout harmonique. Dans la première introduction, Kant annonce que la faculté de juger se charge des fonctions que dans l'appendice à la dialectique transcendantale, il attribuait à la raison dans ses rapports à l'entendement. Son silence sur les motifs de ce remplacement, parce que c'est un vrai remplacement, dont la principale nouveauté est la mise en place du jugement esthétique comme paradigme de la réflexion, ce silence est surprenant. Le remplacement de la raison par la faculté de juger comme source de la réflexion s'articule avec la thèse selon laquelle, dans sa pureté, la finalité ne comporte pas de référence à l'inconditionné. L'inconditionné, c'était justement cette idée hypostasiée de la raison dans l'appendice à la dialectique transcendantale. Au contraire, la finalité de la nature, selon l'analytique du Beau, ne se fonde que sur l'articulation interne entre l'entendement et l'imagination. C'est le célèbre paragraphe 9 de la critique du jugement esthétique où Kant nous présente l'idée du livre-jeu entre l'imagination et l'entendement. Au lieu de discuter les raisons qui ont conduit Kant à ce remplacement, j'aimerais au moins mesurer son implication à partir des indications fournies dans la critique de la raison pure, en la comparant avec le texte de la troisième critique. Mon point de départ, comme déjà remarqué, est l'interprétation non réaliste, si je peux dire comme ça, de la doctrine des idées dans l'appendice à la dialectique transcendantale. C'est-à-dire, je pense qu'il ne suffit pas d'admettre la fonction épistémologique des idées de la raison, en ajoutant que dans la première critique, Kant s'attache encore à la prémisse dogmatique, comme s'il hésitait sur les caractères purement subjective de la présupposition de l'unité systématique des connaissances empiriques. Sans aucun doute, l'appendice de la dialectique transcendantale contient des passages qui semblent conférer une nature réaliste à l'usage régulateur de la raison concernant la connaissance empirique. Je pense pourtant que l'esprit global du texte est catégoriquement critique. Même si la raison, dans son travail de systématisation des connaissances hétérogènes, attribue inévitablement une valeur objective à ses idées, c'est-à-dire les hypostasies, cette attribution est analysée par la critique comme une condition subjective de la connaissance empirique. Donc, l'apparence inévitable de la raison est condition transcendantale de l'expérience. La doctrine de l'usage régulateur des idées est accomplie par la réinterprétation critique de la métaphysique spéciale. Cela dit, prendre en compte le caractère non objectif, non théorique, enfin, et en même temps l'orientation cognitive de l'idée rationnelle dans la première critique, nous permettra de comprendre la nouveauté représentée par les jugements esthétiques, même sans en fournir une explication génétique. Un texte célèbre du début de la dialectique transcendantale, qui donne la classification des dénominations appropriées à chaque espèce de représentation, est très utile à ces propos. Je cite, c'est un texte un peu long, mais il faut le faire. Le terme générique, dit Kant, est la représentation en général. En dessous d'elle se tient la représentation avec conscience. Une perception, c'est-à-dire une représentation avec conscience, perception. Une perception rapportée uniquement au sujet, c'est là le point qui va être développé à l'analytique du jugement esthétique. C'est ça la détermination du sentiment de plaisir, voilà, dans la critique de la raison pure déjà. Je répète alors, une perception rapportée uniquement au sujet comme une modification de son état est sensation, sensatio. Une perception objective est connaissance, cognitio. La connaissance à son tour est ou intuition ou concept, intuitus vel conceptus. La première se rapporte immédiatement à l'objet et à singulière. Le second ne s'y rapporte qu'immédiatement au moyen d'un caractère qui peut être commun à plusieurs choses. Le concept est soit un concept empirique, soit un concept pur. Et le concept pur, en tant qu'il a sa source uniquement dans l'entendement, s'appelle notion. Un concept provenant des notions et qui dépasse la possibilité de l'expérience est l'idée, c'est-à-dire le concept de la raison. Fin de citation. Alors, ce texte, instituant d'abord les partages entre la sensatio et la cognitio, inscrit l'idée rationnelle, c'est ça qui m'intéresse, du côté de la connaissance, de la cognitio. La diairesis qui fait Kant ici, met l'idée du côté de la cognitio. Il s'ensuit que le concept de la raison, même s'il ne possède pas des valeurs objectives, subsiste en tant que pensée dont les physiciens, dont les scientifiques, a besoin pour donner à la connaissance son sens systématique. En fait, à travers les idées, je conçois les phénomènes de l'expérience interne sous la prétendue unité de la substance simple, dans les cas de la psychologie rationnelle. Les phénomènes internes et externes de la nature sous l'unité cosmologique. Et finalement, je conçois tout ce qui ne peut jamais appartenir qu'à l'enchaînement de l'expérience possible, comme si celle-ci formait une unité absolue, sans m'engager sur la réalité des choses en soi. C'est là la doctrine de la première critique. Kant soutient l'orientation cognitive intrinsèque à la définition de l'idée et en même temps nous met en garde de ne pas matérialiser l'absolu conçu par la raison dans un être existant en soi et par soi-même. Si maintenant on considère les prémices de la réflexion dans la troisième critique, dans la critique du jugement, on constate que quand il reprend les partages initiaux de la notion de représentation établie par les textes de la dialectique spéculative, mais en déplaçant le lieu de la réflexion dans la division initiale proposée dès 1781 et valide aussi dans la deuxième édition. On voit bien maintenant la réflexion se trouve non plus du côté de la cognition, mais de la sensation. L'empfindung, entendu bien sûr comme détermination du sentiment de plaisir ou de déplaisir. Ce qui développe son définition présentée au début de la dialectique transcendantale comme, je cite, perception rapportée uniquement au sujet, comme une modification de son état. Bon, à partir de ces constats, c'est-à-dire du constat de cette reprise de la troisième critique, reprise de la première critique par la troisième critique, je me suis proposé dans ma recherche de relire la critique de la raison pure, essayant de trouver des indications de Kant sur ces champs qui, dans l'année 1790, correspondra à celui-même de la subjectivité, le champ de la sensation. Et cet essai a été concluant parce que, avant même de cette définition, au début de la dialectique transcendantale, où il parle des désignations des représentations, avant même de ce texte, Kant exploite déjà, dans la première critique, l'idée selon laquelle le sujet dispose en soi de la possibilité de s'entretenir avec ses représentations, soit représentation de l'entendement, soit représentation de l'imagination. Et cela dans un texte qui anticipe, même du point de vue lexical, les développements accomplis par Kant dans l'analytique du beau. Je pense à la conclusion de l'analytique transcendantale, au chapitre intitulé, le nom du chapitre, du principe de la distinction de tous les objets en général en phénomène et noumène. Je cite, je vais directement au texte qui m'intéresse, on pouvait l'analyser de façon plus élaborée, mais là il faut s'en tenir au texte plus crucial. Je cite, dit Kant, ce texte-là c'est très intéressant parce qu'il reprend la leçon, il résume enfin toute l'analytique transcendantale et il insiste sur les points qu'il faut toujours rapporter les catégories à la sensibilité, au phénomène, etc. Mais par contre, il doit aussi sauver l'idée qu'il ne peut pas accepter l'idée que toute signification soit toujours objective. Il faut avoir une signification qui ne soit pas objective. Parce que si toute signification était objective, cela produirait une implication cosmologique terrible. Tout sera déterminé. Là, dans ce texte, il dit, dans ce texte sinueux, il dit tous les concepts et avec eux tous les principes, tout a priori qu'ils puissent être, se rapportent cependant à des intuitions empiriques. Voilà l'intention des limitations. C'est-à-dire à des données pour l'expérience possible. Sans cela, ils n'ont aucune validité objective, mais ils sont un simple jeu, ein bloß Spiel, que ce soit de l'imagination ou de l'entendement, avec leur représentation respective. Bon, c'est cette idée de simple jeu qui va devenir, dans la troisième critique, libre jeu. Kant pourtant n'exploite pas à ces moments ces caractères ludiques de la prise en considération non objective des représentations par les sujets. C'est cet aspect ludique qui va intéresser à Schiller et aux romantiques. Au contraire, ce texte, la conclusion de l'analytique transcendantale, insiste sur l'exigence de rapporter les concepts de l'entendement au phénomène de la sensibilité pour leur fournir la validité objective des jugements des connaissances. En plus, comme nous venons de voir, le problème de la finalité dans la critique de la raison pure a pour corrélat la doctrine de l'usage régulateur des idées rationnelles. À ces moments, nous avons vu le caractère subjectif de la finalité. C'est la vie, là, non ? C'est bien. Le caractère subjectif de la finalité reste conçu dans le cadre de la réinterprétation critique de la métaphysique spéciale, de façon que la neutralisation de la fonction déterminante de la raison s'articule avec la prise en charge de l'intention théorique des disciplines rationnelles concernant les fonctions des systématisations exigées par la connaissance empirique. Voilà l'explication, ou une possible explication, du fait que dans la critique de la raison pure, Kant n'a pas développé l'idée qui constituera en 1790 la clé de la finalité subjective de la nature, incarnée de façon paradigmatique par l'esthétique, par les jeux libres entre l'entendement et l'imagination. C'est-à-dire que dans la critique de la raison pure, il disposait de la doctrine de l'usage régulateur des idées de la raison. En fait, dans l'analytique de Beuck, Kant ne fait que développer la dimension subjective de la vis représentative, et cela maintenant sans faire référence à l'ancienne métaphysique. C'est-à-dire que Kant tourne les deux à la métaphysique spéciale dans la critique du jugement esthétique, au moins. Antoine a parlé à Curitiba en disant de l'importance de la critique du jugement théologique pour cette discussion, mais on va la laisser à côté par une autre occasion. La finalité, au moins dans la critique du jugement esthétique, opérant comme expression de l'accord interne des facultés de connaissance du sujet, ne résulte que du travail de libre information, dans le sens des données forme, de l'imagination sur les phénomènes, comme si elle était dans le territoire de la pure fiction, im dichtem, écrit Kant. Le libre jeu émancipe la finalité de sa dépendance initiale par rapport à l'objet imaginaire de l'idée d'une intelligence suprême comme fondement de l'unité systématique de l'expérience. L'emploi critique de l'illusion rationnelle, soutenu dans la critique de la raison pure, donne lieu maintenant à l'affirmation de la productivité de l'imagination transcendantale. Au niveau du commentaire, cela indique que l'esthétique, c'est ça, c'est un point important pour notre débat, l'esthétique kantienne est issue de la reformulation d'une problématique spéculative. Une reformulation dont l'origine, comme nous venons de voir, s'enracine dans la première partie de la logique et non de l'esthétique transcendantale. Pour accomplir ces bouleversements, Kant a dû approfondir les rapports admis par la représentation et surtout radicaliser les rôles du Gemüt. Comment on traduit ça, l'âme ?
On sait jamais.
Ça, c'est
l'esprit
ou l'âme. Il a dû radicaliser les rôles de l'esprit dans la dynamique représentative. L'analytique du beau témoigne de cet approfondissement dès le début, en définissant deux modalités de référence de la représentation, soit l'objet, soit au sentiment, selon l'intention de l'esprit de prendre ou non en considération l'existence de l'objet représenté. Quand on prend cette existence en considération, le rapport c'est cognitif, si on ne les prend pas, alors, c'est esthétique. D'où l'effet que les goûts résultent d'une considération admissible par toutes les représentations. Il suffit qu'on fasse abstraction de l'existence de l'objet représenté pour sentir l'efficacité de sa représentation sur nous-mêmes. Et voilà aussi pourquoi, je pense, il y a des interprètes, Langnes par exemple, qui essaient de faire de la réflexion mise en lumière dans l'esthétique kantienne la condition de toute détermination, même là, d'une analytique transcendantale. Parce qu'en fait, toute représentation sensible peut être objet d'une considération esthétique. Il suffit qu'on ne prend pas en compte l'existence de l'objet représenté, enfin la vie, si vous voulez. Bien sûr, cela ne veut pas dire que l'objet d'un jugement des goûts n'existe pas. Pour reprendre l'exemple cher à Kant, un exemple un peu pauvre, la rose existe. Mais c'est la représentation en elle-même, non l'objet qu'elle représente, qui est prise en considération dans les jugements de goût. Dans l'appendice à la dialectique transcendantale, comme je l'ai noté, la réflexion était comprise comme une opération rationnelle de deuxième ordre concernant les déterminations obtenues par l'application des catégories de l'entendement à la diversité sensible. La réflexion, en appartenant au domaine de la raison, qui n'a pas de correspondance empirique, était mise en rapport, dans la critique de la raison pure, était mise en rapport de l'expérience avec le principe inconditionné pensé comme garantie de son unité systématique. Maintenant, la réflexion résulte de la considération purement subjective admise par toutes les représentations empiriques. Elle est devenue l'autre côté de chacune des déterminations cognitives. D'un modèle, pour ainsi dire, vertical de la réflexion, on passe, avec la troisième critique, à la thèse de la réversibilité entre réflexion et détermination, suivant l'alternative qui se présente à l'esprit devant ses propres représentations. Mais cette réinterprétation de la finalité ne saurait être possible si la pensée pure, c'est-à-dire sans aucune référence au sensible, non plus qu'à l'inconditionné, n'était pas possible comme simple jeu. Et je conclue, plus de 5 minutes. Si ce parcours est légitime, nous disposons maintenant de la réponse à la question posée à son départ. Nous avons rappelé que la démarcation de l'esthétique chez Kant est issue d'une problématique spéculative concernant le statut de la finalité. En plus, nous avons vu que le glissement représenté par la transition de la première à la troisième critique s'appuie sur l'approfondissement de l'idée du jeu du sujet avec ses propres représentations. Le simple jeu, bloßes Spiel, de la conclusion de l'analytique transcendantale devient dans la troisième critique le libre jeu, freies Spiel, entre les pouvoirs de l'imagination et de l'entendement. C'est vrai que maintenant, ce jeu emploie des représentations sensibles, mais seulement pour se développer lui-même, comme pensée autonome qui peut connaître a priori l'expérience. Au reste, cette implication épistémologique est cohérente avec son origine intellectuelle et cela même nous empêche d'enraciner l'esthétique kantienne dans le sensible. Cela se dégage du programme au bout duquel l'esthétique émerge dans la démarche kantienne. Puisque si l'attribution de la finalité à la faculté de juger a permis de débarrasser les principes a priori de la finalité de toute référence à la métaphysique spéciale, Kant ne saurait profiter de cette émancipation pour offrir des bénéfices à un quelconque empirisme. Au contraire, nous assistons à travers la définition de l'esthétique à l'approfondissement de l'idéalisme subjectif kantien, ce qui se traduit par l'insistance que Kant met à nous avertir du fait que la spontanéité du sujet se sert du sensible sans pourtant rien concéder à la matière de la représentation. En autre occasion, j'aimerais essayer de formuler une hypothèse sur les éléments qui ont été nécessaires à Kant pour accomplir la réinterprétation de la finalité présentée dans la KU, dans la critique du jugement. Gérard Lebrun a montré les rôles décisifs qu'a joué dans ces processus la considération de la fin naturelle par Kant. Ce qui explique l'abandon de la finalité technique de l'appendice à la dialectique transcendantale et son remplacement par la finalité de la nature, soutenue à la troisième critique. À mon avis, pourtant, il faut, à côté de cela, tenir compte du champ qui a autorisé Kant à exploiter le dynamisme propre à la vie représentative, incarné de manière emblématique par les rôles systématiques acquis par l'esprit dans la troisième critique. En cette direction, l'analyse du rôle de la deuxième critique, de la critique de la raison pratique, pourra nous offrir des éléments surprenants. Quoi qu'il en soit, et pour revenir à notre point de discussion ici, quand le sujet kantien se sent lui-même, c'est-à-dire dans l'expérience esthétique, son jugement, je cite Kant, ne désigne absolument rien dans l'objet. Fin de citation. Son sentiment vital, Lebensgefühl, peut-on en conclure, n'a rien à voir avec la matérialité du sensible. Comme Kant l'affirme, s'opposant par là à toute tentative de rapprocher l'art et la vie, je cite, on voit aisément que c'est ce que je fais de cette représentation en moi-même et non pas ce en quoi je dépends de l'existence de l'objet qui importe. C'est une affirmation du deuxième paragraphe de l'analytique du Beau. Plutôt que la genèse de la signification à travers la dialectique entre formes et matières, comme par exemple on assiste dans la phénoménologie merleau-pontienne, c'est plutôt l'histoire de Werther et son rapport idéalisé avec Charlotte que ces affirmations nous évoquent. Merci.